Bonsoir Émilie.
Bonsoir Amélie, bonsoir Mehdi, bonsoir à tous. Alors il y a deux semaines, dans Croque Philo, nous abordions la notion d'altérité. Et pour ceux qui étaient avec nous, vous vous en souvenez peut-être, nous vous annoncions qu'aujourd'hui, il serait question d'amour. Amélie, tu te souviens, tu avais l'air plutôt emballée par l'idée, je crois.
Ah mais oui, moi c'est un thème que je trouve très important, l'amour, quelles que soient les formes. Hein.
Effectivement, on va montrer là que les formes peuvent être diverses. Et comme le dit le philosophe contemporain André Comte-Sponville, qui a beaucoup travaillé sur l'amour, l'amour est sans doute le sujet le plus intéressant pour la philosophie. Déjà parce que quand dans la vie, à un dîner par exemple, entre amis, quelqu'un, après avoir parlé de son travail, de politique, commenté l'actualité, se met à parler d'amour, il gagne soudain l'attention de tous. Et je confirme aussi que l'effet joue aussi en classe, hein, avec les élèves. L'amour, c'est vraiment le mot magique. Si la philosophie ne fera sans doute jamais aussi bien sur cette question, sur ce sujet, que la littérature, c'est peut-être parce qu'elle cherche davantage à définir plus qu'à décrire l'amour ou à l'exprimer. Et du même coup, l'amour nous échappe sans doute encore davantage en philosophie, nous donne en tout cas moins envie d'être amoureux que ne le fait la lecture de certaines pages de la littérature. Et d'une certaine façon, elle nous parle moins d'amour quand elle cherche à le définir que ne le fait la littérature. Littérature qui, elle, cherche les mots pour le dire, parfois sans le nommer, avec la poésie, en vers ou en prose, de l'ode au roman épistolaire, en passant par d'autres nombreux genres littéraires et des personnages parfois mythiques, elle est un art quelque part entre l'esquive et l'affrontement, la plongée en soi et l'exacerbation du sentiment, voire sa cristallisation. Néanmoins, ce qui unit la philosophie et la littérature sur ce sujet, c'est peut-être ce parfum d'universel dégagé par ce sentiment qui porte en son sein des singularités que la littérature sait souvent si bien dépeindre et conjuguer à tous les temps, toutes les époques, mais que la philosophie, elle, sait gagner par le questionnement. Et l'amour nous questionne toutes et tous, et j'allais dire quel que soit notre âge, et ne cesse de se dire ou de tenter de s'exprimer en chanson, en mots, en musique, en peinture, au cinéma. C'est sans doute parce que nous le rencontrons tous et chacun à notre façon. Ce sentiment humain, trop humain peut-être, nous désarçonne, nous renforce, nous surprend, nous rassure, mais toujours il parle de nous et jamais il ne nous indiffère. Et en philosophie, hein, c'est ailleurs de la littérature, en ne limitant pas, sans doute comme la littérature d'ailleurs, le sentiment à être un objet du corps et du cœur, mais en y invitant aussi l'esprit, la philosophie se pose de façon récurrente la question de ce qu'est l'amour, et ce, dès l'Antiquité. Avec l'éros et l'amour platonicien, d'une part, ou avec la philia et l'amour aristotélicien, d'autre part, Eros et Philia, que l'on distingue parfois un peu trop hâtivement comme étant ce qui serait l'amour pour Eros et Philia pour l'amitié, soit dit en passant. Et qu'est-ce donc que l'amour ? Amélie, qu'est-ce que tu en dirais de cette question, toi ?
Eh bien, je trouve que c'est une question très difficile. J'ai l'impression que ça mélange aussi plein de sentiments. Je penserais à quelque chose de l'empathie, de la reconnaissance, de l'affection. Alors, je ne sais pas si c'est des synonymes ou si ce sont des facettes. Mais l'amour, ouais, je pense à quelque chose de chaleureux et de réjouissant aussi.
Et effectivement, d'ailleurs, la philosophie est passée sur ces synonymes, la sympathie, la compassion, selon certaines théories et certains philosophes, ont été tantôt vers l'un, tantôt vers l'autre, pour sans doute, comme tu le dis, souligner certains aspects de l'amour, mais sans pour autant qu'on puisse forcément les opposer, par exemple. Et force est de constater qu'en général, l'amour nous inspire, même dans le silence, même quand nous n'avons pas les mots pour le dire. On aime qu'on nous parle d'amour. Pour Pascal, philosophe Pascal, 7e siècle, l'amour est spirituel, un peu comme ce que les Grecs appelaient l'agapé. Mais il n'en est pas moins du corps. Alors l'agapé était un peu entendu depuis l'Antiquité grecque comme un sentiment de bonne santé de l'âme ou de l'esprit. Et pour Pascal, jamais l'amour ne nous indiffère, donc, même dans l'absence de définition que nous en avons. Je le cite, « L'amour nous porte à aimer ce qui nous paraît beau sans que l'on ait jamais dit ce que c'est. » Sans que l'on nous ait jamais dit ce que c'est. Pour lui, donc, l'amour, c'est du corps, du cœur et de l'esprit. Et une vie heureuse commence par l'amour, mais aussi se compte avec la raison. Ainsi, quand il parle d'une vie qui commence par l'amour, il entend plutôt le commencement d'une vie adulte, car il n'entend pas en ce sens qu'un enfant soit un homme. Pour Pascal, je le cite, « L'amour est un caractère de nos cœurs qui se développe à mesure que l'esprit se perfectionne. » Ainsi, dans les discours sur les passions de l'amour, il définit les passions comme à la fois des sentiments et des pensées. Et si nous ne pouvons définir ce qu'est l'amour, il écrit que la netteté d'esprit cause aussi la netteté de la passion. C'est pourquoi un esprit grand et net aime avec ardeur et il voit distinctement ce qu'il aime. Donc l'amour pour Pascal, pas de la géométrie, de la science ou de la raison. Mais ça n'y est pas totalement étranger, car c'est une quête de vérité. Et pour Pascal, l'amour se sent, on ne délibère pas dessus, on y est porté. On ne se raisonne pas l'amour. Mais c'est une passion de, enfin, c'est donc en ce sens, pardon, une passion de feu. Hein. C'est-à-dire que nos passions les plus essentielles sont des passions de feu, nos pensées, nos sentiments qui donnent nécessairement du sens à nos misérables existences de mortels. Mais il ne faut pas exclure la raison de l'amour. Et pour lui, l'amour n'est pas aveugle. Il est une façon de voir la beauté en dehors de soi, puisque nous sortons, grâce à l'amour, de notre triste condition avec nous-mêmes pour nous tourner vers la beauté qui est partagée de mille différentes manières. Et, je le cite, « Nous connaissons la vérité non seulement par la raison, mais encore par le cœur, écrira-t-il dans les pensées, parce que l'amant, celui qui aime, préfigure chez Pascal, en un sens, le croyant uniquement préoccupé par la vérité. Et la vérité, pour Pascal, s'incarne dans la foi en Dieu. » Alors, sur cet amour défini comme démarche spirituelle, la philosophe Simone Weil également écrira que dans la beauté du monde, la nécessité brute devient objet d'amour. Donc, ce n'est pas pour elle directement l'amour de la vérité qui nous fait aimer. Mais ce qui permet de contempler la nécessité et de l'aimer, écrit-elle, c'est la beauté du monde. Sans la beauté, ce ne serait pas possible. Entendu par là que nous ne pourrions pas aimer le monde. La beauté du monde, pour Simone Weil, il faut entendre celle de la nature, au sens qu'elle développera dans son ouvrage « La pesanteur et la grâce » notamment. Et l'amour devient avec elle comme une acceptation. Je la cite, « le seul organe de contact avec l'existence », écrira-t-elle. Et pour elle, on ne reconnaît pleinement l'existence que de ce qu'on aime. Et d'ailleurs, sur l'existence des autres pour nous, sur cette question précise de l'amour, lors de leur dernière chronique consacrée au goût des autres et à l'altérité, je vous parlais entre autres d'Emmanuel Lévinas, pour qui la reconnaissance de notre humanité en l'autre est la condition de toute morale. Eh bien, pour Lévinas, l'amour, c'est de l'altérité radicale. L'amour signifie avant tout l'accueil d'autrui comme soi. L'autre ne m'appartient pas, et la rencontre avec l'autre ne peut être que dans la relation suspendue que j'ai avec lui. Relation qui est aussi en soi une forme de distance. Je ne suis pas l'autre. Nous ne formons pas qu'un. Il s'agirait ici donc de s'éloigner de l'illusion de l'amour. Et l'amour, dans cette distance, cultive justement le goût et l'illusion de la fusion. Mais l'illusion seulement. C'est en ce sens que la caresse peut être témoignage et ressenti d'amour. Sur cette altérité radicale et précisément la caresse, Lévinas écrit quelques pages dans Totalité et Infini. Il considère en un sens que la caresse constitue bien une démonstration, qui n'a cependant rien à voir avec la géométrie ou la raison. Pour Lévinas, la caresse fait naître un entre-deux, un monde intermédiaire où chacun est à la fois touchant et touché, n'est plus exactement soi-même, sans être pour autant devenu autre. Consistant à ne se saisir de rien, la caresse se contente d'effleurer. Elle glisse tout en tact, indéfiniment. Elle cherche, sans savoir quoi exactement, sans rien trouver d'ailleurs, mais sans cesser de chercher. Elle marche à l'invisible, pour reprendre les mots de Lévinas. Elle transcende le sensible. Et le corps caressé, caressant, n'est plus le corps physiologique, plus le corps chose des médecins. C'est un corps autre, à la limite du dicible et du pensable. Présent et toujours en devenir. Sur la caresse, j'aimerais faire référence à un autre écrit, littéraire cette fois, « Les caresses de Maupassant », publié pour la première fois en 1883 dans son recueil « Gil Blas », dans lequel Geneviève, ses personnages, hein, Geneviève confie à Henri son dégoût de l'acte charnel. Et Henri lui répond que la caresse, c'est pourtant l'épreuve de l'amour. Voici la lecture d'un extrait de la lettre d'Henri à Geneviève, dans lequel il fait référence à un philosophe qu'il ne nomme pas, mais qui se situe bien loin de toute passion amoureuse et de tout romantisme. Un philosophe, qui ne pratiquait point ses doctrines, nous a mis en garde contre ce piège de la nature. « La nature veut des êtres, dit-il, et pour nous contraindre à les créer, il a mis le double appât de l'amour et de la volupté auprès du piège. » Et il ajoute, dès que nous sommes laissés prendre, dès que l'affolement d'un instant est passé, une tristesse immense nous envahit, car nous comprenons la ruse qui nous a trompés. Nous voyons, nous sentons, nous touchons la raison secrète et voilée qui nous a poussés malgré nous. Et Henri, avec les mots de Maupassant toujours, après avoir reconnu les faits du philosophe, avoir reconnu que parfois les baisers sont froids et décevants, de poursuivre. Mais quand cette sorte de nuage d'affection, qu'on appelle l'amour, a enveloppé deux êtres, quand ils ont pensé l'un à l'autre longtemps, toujours, quand le souvenir, pendant l'éloignement, veille sans cesse, le jour, la nuit, apportant à l'âme les traits du visage, le sourire et le son de la voix, quand on a été obsédé, possédé par la forme absente et toujours visible, dites, n'est-il pas naturel que les bras s'ouvrent enfin, que les lèvres s'unissent et que les corps se mêlent ? Ce philosophe auquel Maupassant fait ici référence, c'est Schopenhauer, dans la métaphysique de l'amour sexuel. Pour lui, la sexualité est une forme motrice, loin de toute illusion de la passion amoureuse, et il considère comme une ruse suprême de la volonté de vivre qui se sert de l'individu pour perpétuer l'espèce. Et si l'amour est aveugle, il n'est pas innocent et pas spontané. Il y a bien, selon lui, une magie de l'amour hein, qui opère parfois dès le premier regard, mais pour Schopenhauer, elle n'est que forte illusion. L'amour ne serait pas nos préférences individuelles qui s'expriment, ce ne serait pas non plus une alchimie miraculeuse, mais un objet réel de la passion amoureuse, finalement, qui ne serait qu'un point de fixation, une mesure subjective de l'idéal. Et si on s'éloigne de la misanthropie de Schopenhauer, on peut néanmoins souligner que l'amour est certainement une chose sérieuse. Le hisser à un sentiment suprême ou sacré en toutes circonstances ne le dessert pas toujours. Comme si dans l'échec relatif de la définition que nous en avons, nous tentions de le faire exister parfois à tout prix, dans toutes les contradictions que cela suppose de le poser comme norme alors qu'il n'est qu'un sentiment. Aimer, ce ne se décrète pas. Et qu'il soit héros, philia, agapé, désir, ruse, manque, transgression ou excès, il n'est en tout cas certainement pas seulement un discours. Ou alors le discours qui fragmente le sentiment amoureux, comme l'a si bien développé Roland Barthes dans Fragments du discours amoureux. L'amour est à réinventer, écrivait Rimbaud. Et la poétique de la rencontre amoureuse, sans cesse réinventée par le cinéma ou la littérature, en est sans aucun doute le témoignage. Je terminerai avec quelques mots de Brigitte Fontaine qui, dans l'un de ses très jolis petits ouvrages publiés en 2012, « L'artiste en déshabillé de soi », se joue du sérieux de l'amour pour mieux le célébrer. L'amour n'existe pas, c'est pour ça qu'il faut le faire.
L'amour, 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 toujours le vieux discours. Soit divin, soit humain, idem le barata. Jusque dans les WC, j'en peux plus par pitié. Faudrait changer de disque entreprise à haut risque, les curés en chaleur, les idoles en pleurs, les mémés les plus louches n'ont que ça à la bouche. À de grâce arrêtez de vous badigeonner de cette pub idiote, j'en ai plein la culotte. L'amour c'est du pipeau, c'est bon pour les gogos. L'amour c'est du pipeau, c'est bon pour les gogos. Barre de dégoulinant, scribouillard pleurnichant, délicat militaire, épargné nouveau glaire. Vénus aux têtes creuses, mais la dent conveilleuse va te faire voir chez les Grecs, les anthropopithèques. L'amour c'est du pipeau, c'est bon pour les gogos. L'amour c'est du pipeau, c'est bon pour les gogos. L'amour, 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 toujours le vieux discours. Soit divin, soit humain, idem le baratin. Vénus, le stade creuse, mais la dent corveilleuse va te faire voir chez les Grecs, les anthropopithèques. L'amour, c'est du pipeau, c'est bon pour les gogos. L'amour, c'est du pipeau, c'est bon pour les gogos. L'amour, c'est du pipeau, c'est bon pour les gogos. L'amour, c'est du pipeau, c'est bon pour les gogos.
Mais quel plaisir de finir avec l'énergie de Brigitte Fontaine. Merci beaucoup, Émilie.
De rien, Annie. Alors, on peut rappeler hein, que c'était le morceau « L'amour, c'est du pipeau » sur l'album « Kekeland » qui est sorti en 2001, je crois.
Ouais. Oui, le titre, il s'appelle Pipeau tout court, mais je crois qu'on le trouve.
Ah, d'accord.
Ouais, mais ça, peu importe. En tout cas, c'était une joie de finir avec ce titre. Merci à toi aussi pour tous ces éclairages sur ce beau sentiment qu'est l'amour, si vaste.
Merci.
On va continuer d'y croire et on se retrouve dans 2 semaines pour le prochain Croque Philo.
Tout à fait, consacré cette fois à l'amitié.
Ah, bah super. J'ai hâte également.
Ouais, on va dire.
Ouais. Merci Émilie, bonne soirée à toi.
Bonne soirée à tous.